بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous avons terminé la semaine dernière l'introduction de cette épître immense, les trois fondements de son auteur, l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab ibn Sulayman al-Tamimi rahimahullah ta'ala. On s'est arrêté lors de la dernière assise sur la parole de l'auteur rahimahullah lorsqu'il a dit: فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَا الْأُصُولُ الثَّلَاثَةَ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الْإِنسَانِ مَعْرِفَتُهَا فَقُلْ مَعْرِفَةُ الْعَبْدِ رَبَّهُ وَدِينَهُ وَنَبِيَّهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Donc, si on te demande quels sont les trois fondements qu'il incombe au serviteur de connaître, réponds: ce sont la connaissance de son Seigneur, de sa religion et de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Al-usul en arabe, c'est le pluriel du mot asl, qui signifie fondement. Et le fondement, c'est la chose sur laquelle on va baser les autres choses qui vont venir après. Et c'est pour cela que ceux-ci ont été nommés les fondements, al-usul, car c'est sur ces fondements-là que l'on va étudier, que tu vas baser le reste de ta religion. C'est pour cela que l'on dit que ce sont des fondements, car tu vas baser sur ceci l'ensemble de ta religion. Car toute la religion repose sur ces trois fondements: la connaissance de ton Seigneur, la connaissance de ta religion et la connaissance de ton prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ceux-ci sont donc les trois fondements de la religion que le Cheikh rahimahullah ta'ala a évoqué ici de manière globale et qu'il va détailler par la suite tout au long de ce livre. Et on va commencer aujourd'hui le premier fondement, qui est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, la connaissance de ton Seigneur. Donc le Cheikh rahimahullah, il a spécifié que les trois fondements sont la connaissance d'Allah, la connaissance de la religion de l'islam et la connaissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et pourquoi le Cheikh rahimahullah a spécifié ces trois fondements? La réponse est que ces trois fondements sont vraiment les choses les plus essentielles de la religion. Et c'est sur cela que tout serviteur sera interrogé lorsqu'il sera placé dans sa tombe. En effet, lorsque l'homme meurt, puis placé dans sa tombe, et qu'il est recouvert de terre, alors son âme est ramenée à son corps. Et deux anges se présentent à lui. Ils vont alors l'asseoir et ils vont lui demander: qui est ton Seigneur? Le serviteur pieux, il répondra alors: mon Seigneur est Allah. Puis ils lui diront: quelle est ta religion? Il répondra alors: ma religion est l'islam. Puis ils lui diront: qu'en est-il de cet homme qui vous a été envoyé? Il répondra: il est le messager d'Allah. Ils lui diront enfin: et qu'en sais-tu? C'est-à-dire, comment as-tu su qu'Allah est ton Seigneur, que ta religion est l'islam et que cet homme qui vous a été envoyé est le messager d'Allah? Il répondra alors: j'ai lu le livre d'Allah, j'ai eu foi en lui et j'y ai cru. Et ceci nous montre l'importance d'apprendre ces choses-là en étudiant. En étudiant cela à travers quoi? À travers l'épreuve du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. et à travers les preuves de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, on clamera depuis le ciel, mon serviteur a dit vrai. Préparez-lui un lit du paradis et des vêtements du paradis. Ouvrez-lui une porte ouvrant sur le paradis. Alors à ce moment-là, il pourra recevoir un avant-goût du paradis ainsi que sa fraîcheur. Et alors, sa tombe sera élargie, à perte de vue, et un homme au visage radieux et aux beaux vêtements se présentera à lui et lui dira « Je suis venu t'annoncer la bonne nouvelle de ce qui te réjouit. Voici le jour qui t'était promis. » Le serviteur pieux, il dira alors « Mais qui es-tu ?» Cet homme lui répondra « Je suis ton œuvre pieuse. » Toutes ces œuvres pieuses qu'il a accomplies ici-bas, sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, et conformément à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, elles se présenteront à lui à ce moment-là sous l'apparence d'un homme au visage radieux et aux beaux vêtements pour lui annoncer cette bonne nouvelle. Il lui dira alors « Je suis ton œuvre pieuse ». Cet homme, c'est-à-dire le serviteur pieux, placé dans sa tombe, il dira alors « Ô Seigneur, fais venir l'heure ». Ô Seigneur, fais venir l'heure que je puisse rejoindre ma famille et mes biens. Ceci est donc la situation du serviteur pieux qui répondra juste à ces trois questions parce qu'il a lu le livre d'Allah, qu'il a eu foi au livre d'Allah, qu'il a cru au livre d'Allah et qu'il a œuvré pieusement en fonction de cela. Quant au serviteur mécréant ou celui qui vit dans l'incertitude, celui qui est plein de doutes, même s'il s'affilie à l'islam, s'il a des doutes au sujet de la religion, comme est la situation de l'hypocrite. Alors lorsqu'il va mourir, il sera placé dans sa tombe et son âme sera aussi ramenée à son corps. Deux anges se présenteront à lui et le mettront assis et lui diront « Qui est ton Seigneur ?» Et qu'est-ce qu'il va répondre ? Il va répondre « Ah ah, je ne sais pas. » Ils lui diront alors « Quelle est ta religion ?» Il répondra « Ah ah, je ne sais pas. » Puis ils lui diront « Qu'en est-il de cet homme qui vous a été envoyé ?» Il répondra alors « Ah ah, je ne sais pas. » Et dans une autre version du hadith, il est rapporté qu'il répondra à cette dernière question « J'ai écouté les gens dire une chose et je l'ai répétée. » C'est-à-dire qu'il disait mon Seigneur et Allah, il disait ma religion et l'islam, il disait mon prophète et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans cette vie d'ici-bas, mais sans certitude, sans avoir une foi réelle, sans avoir une foi réelle en cela et basée sur des preuves. Et ceci est une mise en garde sévère contre le taqlid, contre le suivi aveugle et surtout en ce qui concerne la croyance. Et surtout en ce qui concerne la croyance, il est impératif pour le musulman d'apprendre sa croyance, d'apprendre le tawhid, d'apprendre la foi et les piliers de la foi en se basant sur quoi ? Sur les preuves du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Quant au suivi aveugle, il ne profite en rien en cela, comme on le voit à travers ce hadith. J'ai écouté les gens dire une chose et je l'ai répétée. C'est-à-dire qu'il l'a répétée sans certitude, sans avoir la foi réelle en Allah subhanahu wa ta'ala, en sa religion et en son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors après qu'il ait répondu ainsi aux questions, on clamera depuis le ciel. Préparez-lui un lit de l'enfer et des vêtements de l'enfer. Ouvrez-lui une porte sur l'enfer. Alors chaleur et vent brûlant lui viendront de là. Et sa tombe sera rétrécie, à tel point que ses côtes se croiseront. Puis un homme, au visage laid, aux vêtements désagréables, et à l'odeur nauséabonde lui dira, « Je t'annonce la nouvelle de ce qui t'afflige. Voici le jour qui t'était promis. » Le serviteur l'interrogera alors, « Qui es-tu, puisque ton visage présage du mal ? » Qui es-tu, puisque ton visage présage du mal ? Il répondra, « Je suis ta mauvaise œuvre. » Sa mauvaise œuvre qu'il a accomplie ici-bas, elle se présentera ainsi lorsqu'il sera dans sa tombe. Il lui dira alors « Qui es-tu puisque ton visage présage du mal ?» Il répondra « Je suis ta mauvaise œuvre. » Le serviteur dira alors « Ô Seigneur, ne fais pas venir l'heure. Ô Seigneur, ne fais pas venir l'heure, et ceci sera sa situation dans sa tombe. Et c'est ainsi qu'il répondra à ces trois questions. Il aura peur de ce qui vient par la suite, car ce qui va venir après sera encore pour lui plus terrible. Et ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est notamment rapporté par les imams Ahmad et Abu Daoud, et il a été authentifié par l'imam Al-Albani rahimahumullahu ta'ala. Donc ce hadith, il nous prouve l'importance de l'étude de ces trois fondements. Et l'importance d'étudier ces fondements en se basant sur quoi ? En se basant sur les preuves du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et si ces trois questions sont si importantes, il est alors obligatoire pour nous de les étudier et d'y croire. Car il ne suffit pas d'apprendre ces choses, mais il est impératif pour toi d'y croire et d'y avoir foi, mais également de les mettre en pratique pendant que tu es encore en vie. Ainsi peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala te raffermira lorsque ces questions te seront posées lorsque tu seras dans sa tombe. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 27 de la sourate Ibrahim, يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. Allah affermit ceux qui ont cru. Il les affermit par quoi ? بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ. Par la parole ferme. فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. Dans la vie présente ainsi que dans l'au-delà. Ces trois fondements sont donc d'une importance immense et c'est pour cela que le Cheikh rahimahullah ta'ala s'est concentré sur ceux-ci dans cet épître. Il les a clarifiés, et ce afin que nous les apprenions, que nous les étudions en détail, et que nous ayons la ferme conviction en ceci, et que nous ayons foi, et que nous les mettions en pratique, bi'idhnillahi ta'ala. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me raffermir, ainsi que vous, par la parole ferme, ici-bas, ainsi que dans l'au-delà. Donc le Cheikh rahimahullah, après nous avoir exposé quels sont les trois fondements de manière générale, il va maintenant commencer à nous les expliquer de façon détaillée un par un. Il a donc commencé par le premier fondement qui est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il va nous exposer ces trois fondements en se basant sur les preuves du livre et de la sunna. Et c'est ainsi qu'il est obligatoire pour toute personne d'apprendre sa croyance, comme on l'a dit lors de la lecture du hadith. Il est obligatoire que le musulman, il base sa croyance sur les preuves du livre et de la sunna, ainsi que sur les signes universels d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ce afin que cette croyance, elle s'enracine et elle s'affermisse dans ton cœur, bi'idhnillahi ta'ala, et qu'elle dissipe toute ambiguïté. Quant à ceux dont la croyance est basée sur des ambiguïtés, ou sur des doutes, ou sur les paroles des gens, ou encore sur le suivi aveugle, alors ces croyances, elles sont éphémères, elles ne sont pas fermes et elles risquent d'être annulées et dissipées à tout moment et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. En effet, la croyance, elle ne peut s'affermir dans ton cœur que par quoi ? Que par les preuves du Coran et de la Sunna et également par les preuves rationnelles qui sont admises. C'est pour cela que le Cheikh rahimahullah ta'ala, comme vous le voyez depuis le début de l'étude de ce livre, et comme vous allez encore le voir, jusqu'à la fin de cet épître, il s'est basé systématiquement sur les preuves du livre de la Sunna. Il a appuyé l'ensemble de son livre et toutes les questions qu'il a abordées sur les preuves du Coran et de la Sunna, et ce afin de repousser et de chasser tout doute et toute ambiguïté, et afin que cette croyance, elle soit ancrée dans ton cœur, bi'idhnillahi ta'ala. Ensuite, le Cheikh rahimahullah ta'ala a dit فَإِذَا قِيلَ لَكْ مَنْ رَبُّكْ. Donc si on te demande qui est ton Seigneur, et ceci est une question, comme on l'a vu, qui va t'être posée lorsque tu seras dans ta tombe. Il est donc indispensable pour toi que tu saches qui est ton Seigneur, et ce afin de répondre correctement à cette question tout en ayant la certitude. Tu répondras alors رَبِّي اللَّهِ. Mon Seigneur est Allah. Ceci est la réponse à cette question. Rabbi Allahu alladhi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'ami. Mon Seigneur est Allah qui m'a éduqué et qui a éduqué l'ensemble de l'univers par ses bienfaits. Et ceci est donc un raisonnement rationnel. Le Seigneur, Ar-Rabb, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est donc lui qui a éduqué l'ensemble de ses serviteurs par quoi ? Par ses bienfaits. C'est lui qui les nourrit et leur accorde leur subsistance. C'est lui qui les a créés, subhanahu wa ta'ala, alors qu'ils n'étaient même pas une chose existante, même pas une chose mentionnée. Il les a tout d'abord créés dans le ventre de leur mère, étape par étape. Et il leur accordait, alors qu'ils étaient dans le ventre de leur mère, leur subsistance. Et ce, afin que ce fœtus se développe et grandisse. Et il lui faisait parvenir sa subsistance. Ensuite, il envoie l'ange pour qu'il lui insuffle son âme. Et alors, ce fœtus commence à bouger. Et ce fœtus commence à vivre par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est l'éducation qui commence alors qu'il est encore dans le ventre de sa mère. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala le fait sortir du ventre de sa mère et continue de l'éduquer en lui accordant la santé. Il lui accorde comme nourriture le lait de sa mère. Et il va s'en nourrir jusqu'à ce qu'il grandisse et qu'il évolue et qu'il puisse se passer de ce lait. Et il va évoluer petit à petit. Ses sens vont se développer, sa raison va se développer, ainsi que son ouïe, sa vue, ainsi que le reste de son corps, jusqu'à ce qu'il atteigne la puberté. Puis, il va grandir jusqu'à atteindre sa pleine force, et ainsi de suite, tout au long de l'évolution de l'homme. À tous ces moments de sa vie, depuis sa création dans le ventre de sa mère, et ce, jusqu'à la mort. Celui qui lui accorde sa subsistance est Allah subhanahu wa ta'ala. Et nul autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde cela. Et il en est de même pour tous les êtres qui sont présents sur terre, que ce soit les humains ou les animaux. De la plus grande créature à la plus petite créature, sur terre ou en mer, tous reçoivent leur subsistance de la part de leur Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 21 de surat al-Mulk, أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ. Qui vous donnera votre subsistance s'il vous en prive? Et il a dit subhanahu wa ta'ala dans le verset 6 de la surat Hud, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Et il n'y a aucune bête sur terre sans que sa subsistance n'incombe à Allah. Il n'y a donc personne d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui accorde aux serviteurs leur subsistance. Et nul parmi la création ne possède cette faculté d'accorder la subsistance. Ni les idoles, ni les anges, ni les prophètes, ni toute autre chose dans cet univers. Car ils sont tous des êtres créés qui reçoivent leur subsistance tout comme toi. Ensuite, il a dit, rahimahullah ta'ala, wa huwa ma'boudi. Et il est celui qui j'adore. C'est-à-dire le Seigneur qui t'a éduqué et qui a éduqué l'ensemble de l'univers par ses bienfaits. Il est celui que tu adores. Il est celui que tu adores. Le Seigneur dont il est question ici, il est le seul à mériter l'adoration de ta part et de la part de tout autre que toi. Le Cheikh ici, rahimahullah, il a voulu attirer notre attention quant au fait qu'il ne suffit pas de reconnaître Ar-Rububiyya, qu'il ne suffit pas de reconnaître la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne suffit pas que tu dises « Mon Seigneur est Allah », mais il est impératif que tu reconnaisses qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul à mériter l'adoration et que tout autre que lui n'est pas en droit d'être adoré. Tu dois donc lui vouer un culte exclusif dans l'adoration. Et c'est ceci la différence entre le muwahhid et le mushrik. Ceci est la différence entre le monothéiste et le polythéiste. Le muwahhid, le monothéiste, il reconnaît la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il reconnaît également l'unicité dans l'adoration. Il n'adore donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala seul en ne lui donnant aucun associé. Quant au mushrik, le polythéiste, même s'il reconnaît la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala, même s'il reconnaît qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé, lui a donné la vie, lui donnera la mort, qu'il lui accorde sa subsistance et qu'il administre tout dans cet univers, même s'il reconnaît cela, ceci n'est pas suffisant. Car, en parallèle, il donne des associés à Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration. Il donne des associés à Allah subhanahu wa ta'ala qui ne sont pas capables de créer, qui ne sont pas capables de lui accorder sa subsistance, qui ne lui ont pas donné la vie et qui ne possèdent rien dans cet univers. Ceci est donc la différence entre le muwahhid, le monothéiste, et le mushrik, le polythéiste. Le monothéiste, il dit « Mon Seigneur est Allah, et c'est lui que j'adore, et je n'adore nul autre que lui. » Quant au mushrik, le polythéiste, il dit « Mon Seigneur est Allah. » Cependant, il adore en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala, d'autres divinités. Et ceci est la différence entre les deux. Et le fait de reconnaître l'unicité dans la seigneurie, et de reconnaître qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé, qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné la vie et te donnera la mort, ceci n'est pas suffisant pour entrer dans l'islam et pour être considéré comme un muwahhid, comme un monothéiste. Mais pour être ainsi, il est indispensable que tu voues un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration et que tu n'adores nul autre que lui. C'est pour cela que le shaykh rahimahullah a dit « Wa huwa ma'boudi » C'est lui que j'adore, laïsa li ma'boudun siwa, et je n'adore nul autre que lui. Ni un ange, ni un prophète, ni un pieu, ni un arbre, ni une pierre, ni toute autre chose. Je n'adore nul autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Le shir rahimahullah, il a donc voulu ici insister sur la nécessité de reconnaître l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Il a dit ensuite rahimahullah, والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. Et la preuve, car comme on l'a dit, le cheikh rahimahullah ta'ala, il base tout ce qu'il aborde sur quoi? Sur les preuves du Coran et de la Sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a donc dit la preuve, c'est-à-dire la preuve que mon Seigneur est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, الحمد لله رب العالمين. Toutes les louanges sont à Allah, Seigneur de l'univers. Ce verset est le premier verset que tu trouves lorsque tu ouvres le mushaf. Et il n'y a rien d'autre avant celui-ci, si ce n'est la basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Et cette parole, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, c'est la fin des invocations des gens du paradis, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 10 de la sourate Yunus, wa akhiru da'wahum an ilhamdulillahi rabbil alamin. Et la fin de leur invocation est la louange est à Allah, Seigneur de l'univers. Alhamd, la louange, elle consiste à adresser les éloges de celui que tu loues, tout en l'aimant et en le glorifiant. Tout en l'aimant et en le glorifiant. Et lorsqu'on dit alhamd, cela signifie que toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala de plein droit. Il est donc digne de la louange absolue subhanahu wa ta'ala. Quant à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il peut être loué en fonction de ce qu'il fait comme bien. Mais la louange absolue et la louange complète, elle n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et même les créatures en réalité, s'il t'accorde une faveur ou qu'une créature est bienfaisante envers toi, en réalité, ceci provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est lui qui a servi cette créature pour qu'elle t'accorde cette faveur ou pour qu'elle fasse preuve de bienfaisance envers toi. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a donné la possibilité d'être bienfaisant envers toi. Donc en réalité, la louange, elle revient à qui au final? Elle revient à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que l'on dit que toutes les louanges sont à Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes les louanges sont à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de tous les univers. C'est-à-dire qu'il est Seigneur de l'univers des anges, de l'univers des oiseaux, de l'univers des animaux, de l'univers des insectes, de l'univers des hommes. Tout ce qui existe dans cet univers et qui ne peut être recensé et dénombré que par Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui est dans cet univers, Allah subhanahu wa ta'ala en est le Seigneur. C'est-à-dire qu'il en est le créateur, le possesseur, et c'est lui qui gère tout ce qu'il y a dans cet univers, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il a dit, rahimahullah, wa kullu ma siwa Allah 'alam wa ana wahid min dhalika al-'alam. Il a dit en expliquant le verset de sourate Al-Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah, Seigneur d'Al-Alamin, Seigneur des univers. Il a donc expliqué en quoi ce verset est une preuve de ce qu'il a avancé, rahimahullah, en disant qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, est le Seigneur des univers, et moi, je suis un élément de cet univers. Donc Allah, subhanahu wa ta'ala, et mon Seigneur, car je suis un élément de cet univers, et Allah subhanahu wa ta'ala est le Seigneur des univers. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est mon Seigneur. Et il n'y a personne qui peut dire qu'il a un autre Seigneur en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ni le mécréant, ni le musulman. Et ceci est impossible. En aucun cas, personne n'affirme cela. Et ceci est une preuve de la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala est le Seigneur des univers. Et ceci implique quoi de nous? Cela implique que on adore Allah subhanahu wa ta'ala seul en lui vouant un culte exclusif subhanahu wa ta'ala. Et le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit le Seigneur des univers, ceci annule et rend vaine l'adoration de tout autre que lui subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela qu'il a dit après cela, toujours dans sourate Al-Fatiha, Iyaka na'bud wa iyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est de toi seul d'où nous implorons l'aide. Dans ce verset, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit au début Iyaka, Iyaka na'budu, c'est toi seul que nous adorons. Il n'a pas dit nous t'adorons, na'buduk, mais il a dit Iyaka na'budu. Ceci signifie que seul Allah subhanahu wa ta'ala est en droit d'être adoré et que l'adoration de tout autre que lui est une adoration vaine, est une adoration fausse qui n'est pas acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au contraire, c'est du shirk qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit et qu'il ne pardonne pas pour la personne qui meurt sur celui-ci sans repentir. Ceci était donc la première question abordée par le shir, rahimahullah ta'ala, au début de ce fondement qui est ton Seigneur. Et comme on l'a vu, la réponse est mon Seigneur est Allah qui m'a éduqué et qui a éduqué l'ensemble de l'univers par ses bienfaits et celui que j'adore et je n'adore nul autre que lui. Ensuite, le shir rahimahullah ta'ala, il a dit فَإِذَا قِيلَ لَكْ بِمَا عَرَفْتَ رَبَّكْ. Et si on te dit comment as-tu connu ton Seigneur? Et nous verrons cette question lors de la prochaine assise Inch'Allah ta'ala. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khayra.